Actu SF. Les podcasts.
Bon, on va commencer. On est pas très nombreux, on est tranquille. On va en profiter. Comme ça, on aura un peu de temps à la fin si vous avez envie de vous de poser des questions ou de poursuivre, si ça vous va. Alors, on va faire un rapide tour de table et puis après, moi, j'aime bien pour présenter les auteurs, plutôt que de parler de leur parcours, lire un petit bout de ce qu'ils ont écrit, parce que ça nous permet de nous remettre un petit peu dans une langue, un style. Voilà. Alors donc, on a Loïc Le Born qui est ici. Voilà. À côté, Isabelle Bautian. Clément Boelier. Et Delia Sherman, voilà, et sa traductrice Claudine. Alors on a de la chance parce que Delia comprend notre langue, voilà, même si elle nous parlera en anglais. Alors du coup, donc, pour vous les présenter un petit peu plus par leurs mots, on commence par Isabelle. Donc Isabelle, elle a publié Anastérie et Grishmer, qui sont voilà, des livres de fantasy. Et pour rentrer un petit peu dans son univers, j'ai choisi un passage. Et après, tu nous expliqueras un petit peu ce que tu as voulu faire. Ah non, mais pas spécialement sur ce passage-là, mais de manière... Donc, tout avait commencé le lendemain de leur arrivée à la forteresse. Constance avait frappé à leur porte à l'aube, en habit de cheval, impatiente de les convier à une partie de chasse. Sur le chemin des écuries, elle leur avait montré les petits jardins, magnifiques, où serpentaient des filets d'eau chaudes, et où des artistes, chercheurs et intellectuels divers, parmi les plus érudits du monde connu, travaillaient dans le calme et la paix, certains financés par la si généreuse baronnie. Elle leur avait surtout vanté la bibliothèque de l'université, la plus grande de civilisation après celle de capitale, mais avec des ouvrages plus rares, ainsi que les séances de doléances menées alternativement par Cal et Elbeth, où l'on autorisait le peuple à critiquer ses barons, mais où l'on interdisait l'écrit sous peine d'amende et d'exclusion. Voilà, je m'arrête là. Donc c'est une présentation d'Anastérie, qui est le premier royaume que tu as exploré, avant d'explorer Grishmer dans le second. Donc voilà, vous pouvez vous repérer au titre, c'est facile. Et... Voilà. Qu'est-ce que, peut-être juste pour démarrer, pour présenter ce que tu as voulu faire rapidement avec ces deux premiers romans, parce que Isabelle fait bien d'autres choses, mais voilà, elle a fait ces deux romans-là, et puis de la BD, et puis des scénarios et tout.
Anastérie, c'est un livre dont j'avais écrit la première version il y a pas loin de 15 ans maintenant. Et en fait, à l'époque, je n'avais pas encore été éditée en BD, parce que j'ai d'abord été éditée en bande dessinée, j'ai plus de bandes dessinées parues que de romans. Et je l'avais proposé à quelques éditeurs, j'avais eu des retours plutôt positifs, mais pas au point d'aller jusqu'à la signature, même si sur un, ce n'est pas passé loin. Et en fait, bon, je l'avais un peu mis de côté, parce que comme j'ai été éditée d'abord en BD, même si ce que j'ai toujours voulu faire, c'était du roman. J'adore la bande dessinée, mais moi, ma vraie vocation, c'était vraiment le roman. Et j'avais mis ça un peu de côté parce que comme ma carrière avait commencé en bande dessinée, ben voilà, je m'y suis consacrée pleinement. Et ce qui s'est passé, c'est que Audrey Alouette, qui est une autrice de bande dessinée et romancière, m'a créé d'abord un label d'auto-édition, un label d'auteur avec Christophe Arleston. Et on se connaissait tous les trois. Il se trouvait qu'on avait tous les trois un bouquin de fantasy et on s'est dit on va lancer ça ensemble. Et après, ce label a été racheté par les éditions ActuSF. Et en fait, Anastérie, je l'ai vraiment beaucoup réécrit parce que c'est vrai que quand je me suis replongée dans la première version, je trouvais qu'elle... j'ai pas tout jeté, quoi, mais je trouvais qu'elle souffrait d'un grand classicisme. Je suis pas quelqu'un qui est sur des écritures ultra efficaces de base, mais là fallait pas pousser, c'était vraiment ça. Je pense que je me reposais beaucoup sur mes acquis qui étaient bon les personnages et les dialogues, et que du coup j'avais pas pris assez de recul par rapport à ça, et donc il a fallu vraiment que je retravaille l'intrigue. Et Anastérie, c'est une société dans le voilà, mon héros qui appartient à une autre baronnie se retrouve à aller à Anastérie, et c'est une société qui est présentée comme idéale, utopique. Et Constance, là dans l'extrait, est une jeune femme qui ne vient pas d'Anastérie elle-même, mais qui a été accueillie dans cette baronnie et qui veut communiquer son enthousiasme et qui le fait un peu avec des gros sabots. c'est pas la meilleure guide de voyage du monde. Elle donne pas forcément envie de s'y intéresser. Elle donne plutôt envie de s'enfuir. Oui, mais elle a des raisons.
Et on voit après dans le roman que cette tension-là, elle est très intéressante pendant tout le roman, du coup. Alors, Loïc Leborn, qui a écrit Sim Survivor, qui était dans la sélection cette année du prix des lycéens. Alors j'ai choisi un extrait parce que Sim Survivor, ça sonne comme un nom de jeu vidéo et c'est bien le cas. Et du coup, on va rentrer un petit peu dans ce jeu avec ce petit extrait. Donc voilà, les candidats du jeu se retrouvent face aux présentateurs en public et donc on va écouter les présentateurs. Salutations, mesdames, messieurs, dit la fée d'une voix plus aiguë et cristalline que hors antenne. Bonjour, maître Hank. Fidèle comme toujours, je serai à votre service jusqu'à la fin de cette 10e saison. Elle devrait être riche en coups de théâtre. L'image d'une île paradisiaque surgit au-dessus du présentateur. D'anciens gagnants à parure, quittant des palaces, montant dans un jet, profitant d'immenses palais en compagnie d'amis, de membres de leur famille. Ce bonheur n'arrive que si les amoureux surmontent les redoutables épreuves que nous leur avons concoctées, glissa le présentateur. Lors de la dernière étape, vous le savez, seul le duo arrivé en tête l'emportera. Le duo, ou le survivant du couple, si par malchance il arrivait, comme c'est souvent le cas, malheur à l'un d'eux. Par tous les cercles, je ne l'espère pas. Au cours des 9 saisons précédentes, seuls 2 couples avaient réussi à atteindre la fin du parcours en l'emportant. Au plafond, ces héros, à peine vieillis, s'embrassèrent avec passion au milieu de palais dorés. Un bébé gazouilla entre 2 des tourtereaux. Que vivent les rêves ! S'écria le vieil Hank. Quoique, personnellement, j'aime aussi les cauchemars. Et c'est ce qui attend nos concurrents. Avant, s'ils l'emportent de connaître gloire, richesse et célébrité, et même, oui, l'amour ! Les spectateurs redoublèrent d'applaudissements. Des dizaines d'entre eux ne purent retenir leurs larmes en souvenir des moments magiques ou tragiques qui avaient marqué les éditions précédentes. Quant aux autres vainqueurs, ils avaient terminé la compétition en solitaire, ravis de l'emporter avec la promesse d'une vie à l'abri des besoins, mais privés de fabuleux bonus garantis à ceux qui gagnaient en duo. Pire, Dante Corporation ne diffuserait pas d'images de leur idylle d'un bout à l'autre du monde, vidéo qui leur aurait garanti une célébrité quasi éternelle. Alors voilà comment on entre un peu dans Sim Survivor.
Alors voilà, ce roman, en fait, il est né d'un défi que m'a lancé ma fille, adolescente. C'est pas la première fois que je me bats sur les idées de mes filles. Elle m'a dit « Je viens de terminer la trilogie Hunger Games, est-ce que tu pourrais pas écrire un truc du même genre ?» Alors c'est affreux hein, comme proposition, parce qu'il faut évidemment pas faire de plagiat. Donc j'ai choisi de remonter à l'origine, c'est-à-dire que Hunger Games, c'est quand même pas la première histoire de ce type. Donc Stephen King en avait fait, hein. Il y a eu Running Man, il y a eu Marche ou crève par exemple, que j'avais lu adolescent. Et il y a beaucoup de points communs avec les dystopies d'aujourd'hui. Et puis je suis remonté à un film français qui en réalité, je pense, est vraiment la racine de tout cela. D'ailleurs, il y a eu des histoires de procès hein, entre, par exemple, les réalisateurs de Running Man et Le Prix du danger, donc, qui était un film du début des années 80 et qui était très précurseur. Donc en fait, le présentateur, là, c'est Michel Piccoli, en fait. J'avoue que je l'ai plagié un peu. J'ai revu plusieurs fois ce film et c'était vraiment visionnaire. On annonçait déjà toute la télé-réalité, alors c'était au début des années 80, avec Gérard Lanvin qui était le personnage principal. Ce personnage de présentateur, on le retrouve quasiment tel quel aussi dans Hunger Games, hein, un petit peu ridicule, qui en rajoute des tonnes, qui est très maquillé. Donc je vous conseille de regarder ce film. Et puis... ce que j'ai voulu faire, alors là, on ne l'a pas vu, mais c'est que le héros, je l'ai pris dans le monde dominant, puisque c'est une dystopie, il y a forcément une dictature, une forme de dictature, mais qui est plus subtile que certaines dictatures actuelles. Ce n'est pas la Corée du Nord, quoi, c'est une dictature faite par les médias et par les jeux. Et le héros, j'ai voulu le piocher, le prendre dans cette caste dominante, et non pas chez les rebelles, comme c'est souvent le cas dans les dystopies. Donc il est assez affreux, en fait, au début. Pour être clair, c'est le genre de garçon qu'on n'aimerait vraiment pas trop croiser. Il est égoïste, il adore son petit confort, il a de la richesse. Il est issu d'une famille très riche, Donc il profite beaucoup de tout ça, il adore aller en boîte, draguer les filles, il a 18 ans, hein, et il n'a pas du tout envie que ça change. Néanmoins, il s'ennuie un petit peu quand même, hein, parce que c'est bien joli d'avoir tout le confort matériel, mais il se demande ce qu'il va faire de sa vie. Et voilà, il va basculer dans ce jeu, malgré lui. Alors, tu as dit tout à l'heure que c'était un jeu vidéo. Alors la grande question, c'est est-ce que c'est réellement une simulation très très bien faite, ou est-ce que c'est la réalité? Et en ce cas-là, comment ils ont pu reconstituer un monde qui paraît assez incroyable avec plein de créatures fantastiques? Bon, on se devine un peu la réponse, hein. Sinon, l'enjeu serait moins drôle si c'était un pur jeu vidéo.
Merci. Alors, on va continuer à découvrir un peu ces textes avec Le labyrinthe vers la liberté de Delia Sherman. J'ai choisi un passage où la jeune héroïne Sophie qui arrive chez sa grand-mère dans une ancienne plantation, elle va passer l'été là, ça l'ennuie un petit peu et elle se met à explorer un peu plus les lieux. Et donc ce lieu étant, on s'en est très mal occupé hein, depuis que la famille a perdu tout l'argent qu'elle avait, c'est un lieu un peu étrange. Alors, maintenant que maman était partie, elle était libre d'explorer les environs. Elle commencerait par la cabane du jardin, jetterait un coup d'œil au labyrinthe et programmerait peut-être une expédition vers la grande maison, à supposer qu'il en reste quelque chose. De près, la cabane du jardin ressemblait à la cabane d'un bûcheron de conte de fées, avec deux petites fenêtres qui émergeaient des plantes grimpantes et un banc de bois près de la porte entrouverte. Elle la poussa en grand et entra. Connaissant les habitudes ménagères de tante Enid, Sophie fut étonnée de voir que ses outils de jardinage étaient propres, astiqués et rangés, bien en ordre, sur une vieille table de bois. Le reste de la pièce était un fouillis de meubles cassés et de pots de fleurs empilés à la va-vite entre la porte et l'énorme cheminée de pierre qui occupait presque tout le mur du fond. Sophie savait parfaitement qu'une jeune fille bien élevée ne rampe pas à l'intérieur d'une cheminée et n'y passe pas non plus, à plus forte raison, la tête pour regarder dans le conduit. C'est cependant ce qu'elle fit, franchissant du même coup un treillis de vieilles toiles d'araignées agglomérées. Quand elle eut fini de débarrasser ses cheveux des fils qui s'y étaient accrochés, elle rajusta ses lunettes et regarda au-dessus d'elle le conduit sombre qui dégageait une odeur âcre de vieux bois brûlé et de suie. Elle aperçut deux yeux d'ambre luminescents qui s'ouvraient, se refermaient un peu, puis clignèrent.
C'est tellement beau en français. C'est tellement beau en français.
You asked how we started the book, right? I had a dream. I had a vision of a garden that I had never seen before, and a maze in the distance. And when I and a creature, somebody was murmuring in my ear. And when I woke up, I thought I have to write that story. I have to discover what that maze is and what that garden is. Do you want to do that?
Je crois que vous avez demandé comment on a commencé, comment on a eu l'idée du livre. Eh bien, c'était un rêve, tout simplement. J'ai rêvé que j'étais dans un jardin que je ne connaissais pas et qu'au bout, il y avait un labyrinthe. Une créature étrange murmurait dans mon oreille. Et je me suis dit, il faut absolument que j'écrive ce que c'est que cette histoire, ce que c'est que ce labyrinthe et cette créature.
As it happens, my mother comes from Louisiana, where this book is set, and I had long decided, a long series of events made me think that this would be a good way for me to write about something that troubles me very much, which is racism and the history of slavery in America.
En réalité, ma mère est de Louisiane et ça faisait longtemps que j'avais décidé d'écrire sur la question, une série d'événements en fait, a fait que j'ai décidé de passer à l'acte. Je me suis dit que c'était une bonne manière de parler de quelque chose qui me gêne énormément, le racisme et l'histoire de l'esclavage.
So since I primarily write historical novels and I am very interested in various parts of history, I started to research slavery in America and especially in Louisiana on a cotton plantation. And I, in the course of my researches, I found a volume full of advertisements for escaped slaves. And one of the most interesting things that I found was an advertisement that said, young girl, 12 years old, blonde and blue-eyed, could pass as white. Because in Louisiana, the law was that if your mother had been a slave, no matter what you looked like, you too were a slave.
Alors, j'écris énormément de romans historiques. Et quand je fais mes romans, je fais de la recherche. Et j'ai commencé donc à faire de la recherche pour ce livre sur l'esclavage, sur l'histoire de l'esclavage aux États-Unis et surtout en Louisiane, sur les plantations de coton. J'ai fait cette recherche et je suis tombée sur un livre où il y avait des annonces où on cherchait des annonces de recherche d'esclaves qui s'étaient enfuis. Et une de ces annonces parlait d'une jeune fille, 12 ans, blonde, aux yeux bleus, pourrait passer pour blanche, car en effet, si votre mère était esclave, vous deveniez automatiquement esclave vous-même à la naissance.
So that is the story that I decided to write, because it seemed to me that it showed very much that particular way of talking about race was something that was convenient for the people who had the most power, but was not based on what they said it was based on, which was the color of your skin and the race and your race. And I found this very interesting. And also, it was a way as a white person for me to be able to tell a story that was both from the outside and the inside at once, because it's not my story to tell, but I could insert myself into that and give her the experiences, and then she would experience them in her personal way without my saying anything about the black experience, but that this was what it was like, and I researched it a lot, to be a slave on a plantation, what you had to do, what time you had to get up, what you ate, what you wore, how you were treated, what the punishments were. It's all written down.
Donc, j'ai décidé que c'était cette histoire-là que j'allais raconter. L'idée était pour moi de montrer que ce discours qu'on a sur la race, qui est employé par ceux qui sont ou étaient au pouvoir, c'est pas ce que l'on pense d'habitude. C'est pas juste la couleur de la peau, ce n'est pas le fait d'être blanc, d'être caucasien. Non, c'est une autre chose, une autre interprétation. Et je me suis dit que c'était une bonne manière pour moi de la raconter, moi qui suis blanche. Cette histoire, je pouvais la raconter depuis l'intérieur, en tant que femme blanche. Je pouvais rentrer dedans et raconter ces expériences. Je voulais parler de cette expérience des esclaves, des expériences qu'ils avaient. J'ai fait énormément de recherches sur ce qu'ils faisaient, ce qu'ils portaient, les tâches qu'ils avaient à faire, quand ils se levaient, comment ils s'habillaient, les punitions qu'ils avaient à subir, etc.
Merci. Alors, donc Clément Boyer, on va lire un petit passage de Passé déterré, qui est ton dernier roman, mais Clément a fait avant un diptyque, Chaos. Donc voilà, alors... J'en dis pas trop, je fais une petite ellipse pour pas en dévoiler trop. Ils sont neufs, ils sont silencieux, ils marchent lentement. Leurs yeux vides de pupilles hésitent entre le rose et le rouge d'une plaie. Certains de leurs membres sont brisés, les jambes se tordent là où elles ne devraient pas. Au bout des bras qui ballottent, les mains prennent des positions qui n'ont rien de naturel. Le haut et le bas des corps agissent comme des entités distinctes. Plus rien, semble-t-il, n'est correctement articulé. Aucun des neuf corps ne devrait tenir debout. Pourtant, tous avancent. Leurs pieds raclent le sol boueux. Ils heurtent des branches qui craquent dans un bruit d'os qui se rompt. Depuis combien de temps marchent-ils ainsi? 6 ans. Une éternité. Mais ils sont parfaitement reconnaissables. Elle avance, il avance, ils avancent tous. Depuis 6 ans, ils marchent sans trêve dans cette campagne grise, tout près de cette portion de route réputée sans danger. Ils avancent toujours dans la même direction, mais ils reviennent systématiquement au virage. Quand ils y parviennent, un crissement retentit dans la campagne. Alors les mâchoires des morts se mettent à pendre davantage. Sur leurs cou, des bourrelets de chair qui ne ressemblent plus vraiment à des muscles se gonflent, comme s'ils essayaient de parler ou de crier. Mais rien ne sort de leur bouche. Lentement, ils dépassent le virage et ils continuent leur marche qui les ramènera au virage, encore et encore et encore. Alors, comment il est apparu ce texte-là ?
Alors, comment est apparu ce texte-là ? Je crois que j'avais envie d'écrire une histoire de vampire. Ça me trottait dans la tête depuis un moment. Le truc, c'est que faire original avec le vampire, il faut se lever tôt parce qu'il a été tellement utilisé dans plein de... Enfin, pour exprimer plein de choses, que c'est compliqué, je trouve, d'être original. À titre d'exemple, certains d'entre vous l'ont probablement vu, un des premiers Dracula avec Bela Lugosi, où la figure du vampire est... c'est un acteur qui avait un fort accent de l'Est, hein, donc la figure du vampire est utilisée pour montrer une sorte d'envahisseur qui viendrait de contrées obscures dont on ne sait pas grand-chose, etc. Le roman original de Bram Stoker, il y a évidemment l'idée de cette idée-là aussi, hein, de l'intrusion d'un envahisseur un peu barbare qui viendrait sur des terres anglaises, qu'on va vaincre finalement à coup de science, D'autres en ont fait encore d'autres choses. Coppola, par exemple, dans son film, en a fait l'intrusion d'un certain passé dans la modernité. Il y a plein de rapports au cinéma dans le film de Coppola. Et à travers d'autres supports, notamment, vous connaissez peut-être la très bonne BD Le Prince de la Nuit de Swolfs, c'est là le vampire, il est utilisé comme l'espèce de mauvaise conscience d'une famille. En fait, c'est le vampire ne meurt jamais, les différents membres de la famille tentent de le tuer sans jamais y arriver, évidemment. Et le vampire suit, et c'est vraiment il incarne pour moi une sorte de mauvaise conscience. Il rappelle à chaque membre de la famille successivement ses péchés. Et donc, du coup, en lisant cette BD, je me suis dit que je pouvais peut-être faire du vampire quelque chose d'un peu différent, à savoir la mauvaise conscience, non pas d'une famille, mais d'un village, d'un lieu. J'avais un prof d'histoire, un vieux prof d'histoire excellent, qui nous avait expliqué qu'après la Seconde Guerre mondiale, il y avait eu comme une espèce d'inconscient, une sorte de, je ne sais plus comment on appelle ça en psychanalyse, de refoulement, je crois. C'est-à-dire, en gros, on met de côté, on oublie des événements un peu sales qui se sont passés. Typiquement, mon voisin a dénoncé ses propres voisins, etc., qui avaient le malheur de ne pas être de bon français. Bref, donc, du coup, tout ça, une fois que la guerre est terminée, une fois que l'occupant est parti, est mis un peu sous le tapis. Et du coup, j'ai voulu me servir de la figure du vampire pour illustrer ça, pour illustrer la mauvaise conscience d'un lieu, d'un village en l'occurrence, où il s'est passé des choses un peu sales. Donc le roman commence avec un accident, hein, donc je vais pas en dire trop plus, effectivement, c'est gentil de pas spoiler. Donc dans l'accident, évidemment, il y a des morts, notamment des enfants. Bon, là je spoil pas trop parce que c'est dans le quatrième de couverture. Et donc évidemment, ils vont revenir sous j'en dis pas trop plus sur la forme, et ils incarnent vraiment la mauvaise conscience et tout ce qui a pu se passer de dégueulasse avant l'accident et même bien avant dans ce village.
Voilà. Je vais rebondir dessus du coup, parce que alors, le thème de cette table ronde, c'est de discuter des voyageurs de l'imaginaire. Et alors, on en parlait juste avant, ce sont des voyages un peu particuliers que vous proposez les autres, ne sont pas des voyages au sens traditionnel du terme, parce que, par exemple, Isabelle, dans Anna Astérix comme dans Grishmer, il y a un voyage, oui, qui emmène un personnage dans un nouveau lieu. Et on peut considérer que du coup on le suit dans son voyage, mais c'est surtout l'occasion de découvrir deux univers de fait. Je sais pas comment toi tu peux raccrocher ça à l'idée du voyage, si c'est possible ou...
Avec difficulté.
Ouais.
ça commence par un voyage si on veut, mais il est pas en voyage. Au départ, il est envoyé là parce qu'il a un peu trop déconné, si je puis me permettre, chez lui. Et donc son père, qui est un baron, c'est un deuxième fils de baron, donc il a un petit peu plus de, on va dire qu'il peut se permettre un peu plus de choses que l'aîné, mais bon, tout de même, il est envoyé là pour se calmer un peu, et sous un vague motif politique où on lui demande d'espionner, parce que bon, ça se passe dans une monarchie fédérale, et c'est des gens qui sont constamment menacés d'invasion. C'est un tout petit pays, donc ils sont obligés d'être alliés les uns avec les autres, mais ils ont des politiques très très différentes, donc il y a quand même un petit jeu d'espionnage plus ou moins toléré. Et le voyage, c'est ce qui lance l'action, on va dire, mais on les voit très peu. On les voit voyager dans cette baronnie où ils vont passer de cette espèce d'idéal que le personnage de Constance essaie de leur vendre au début à un côté beaucoup plus sombre, la face cachée de l'utopie. Et en fait, moi, pour accorder au voyage, on va essayer.
Non, mais t'es pas obligée, on peut arriver à la conclusion que ce ne sont pas des voyages. Hein, si, hein.
Non, mais si, en fait, moi, ce qui me... Alors, bon, ça fait un moment que j'ai plus fait de vraiment gros voyages, mais ce qui me frappait dans les voyages, c'est autant j'étais beaucoup dépaysée par les lieux, autant j'étais finalement assez peu dépaysée par les gens. Parce que même si les cultures peuvent paraître très différentes, moi, ça me frappait à quel point les fondamentaux de l'humain étaient frappants, et ce, quelle que soit la culture. Et je pense que... Alors, la série, ce qui s'appelle... Enfin, les Rhéteurs, il va y avoir 5 tomes, il y en a 2 parus. À chaque fois, c'est dans une nouvelle baronnie, donc on peut parler de voyage, vu que c'est... Bon, voilà, à chaque fois, on découvre un nouveau système politique et de nouvelles personnes. Mais à chaque fois, ce qu'on va voir, c'est les dessous de la politique, les dessous des idéaux, dans le cas d'Anastérie, qui se veut... eux, se veulent pas forcément une utopie, parce qu'ils sont pas naïfs, mais ils se veulent le meilleur système possible. Bon, en gros, c'est des gauchistes dans un monde médiéval, quoi, pour résumer ça. Et ils font des très, très belles choses. Mais eux, font d'énormes sacrifices pour ça, des sacrifices qui, si on regarde dans les détails, peuvent faire d'eux des véritables enfoirés. Mais ils ont parfaitement conscience de faire ça. Et le problème, c'est pas qu'ils ne l'assument pas, parce qu'ils l'assument parfaitement, mais c'est qu'ils ne peuvent pas l'assumer publiquement, parce que l'important, c'est l'image qu'ils donnent. Et ce qu'ils veulent, c'est montrer aux gens qu'on peut se remettre en question, qu'on peut prendre du recul, qu'on peut changer la société. Et ils ont parfaitement conscience du fait que pour ça, ils doivent complètement renoncer à être eux-mêmes et à même assumer leurs horreurs, alors que même... Enfin, leurs horreurs, bon, je veux dire, c'est pas des gros fachos non plus, hein, mais assumer les sales choses qu'ils font, alors même qu'ils voudraient peut-être l'assumer. Donc ils se sacrifient complètement à cet idéal, et en le trahissant quelque part, parce qu'ils manipulent, voilà. Donc après, je peux pas donner tous les détails, mais c'est ça qui m'intéressait, et ce qui m'intéresse d'une manière générale, c'est de montrer les fondamentaux humains derrière les différentes cultures.
Merci. Je précise pour les lecteurs, si vous n'avez découvert aucun des deux, que si vous voulez commencer par Grishmer, c'est possible aussi. Hein. C'est mieux, je pense, de commencer par Anastérie, parce qu'on a des personnages, enfin un personnage en particulier qui est important à découvrir, il me semble, d'abord avec Anastérie.
Oui, mais après, en fait, ce qu'il y a, c'est que ce personnage est vu, à chaque fois, c'est des histoires complètement indépendantes, et à chaque fois, on change de protagoniste. Et comme ce personnage et un personnage secondaire est très, très ambigu, en fait, selon la personne avec qui il interagit, on va en avoir une présentation complètement différente. Je pense pas qu'il est... Bon, il y a des fondamentaux de son caractère qu'on retrouve, mais je pense pas que quelqu'un qui dirait juste Grishmer aurait la même image du personnage que quelqu'un qui dirait juste Anastérie. Donc, on peut les lire. Ils sont vraiment, vraiment indépendants. Donc, comme vous voulez.
Alors, Loïc, je reviens vers toi. Alors, un voyageur. Oui, on a des voyageurs, peut-être d'île en île, de l'île du sang, de l'île de la mort. Est-ce que toi, tu as l'impression de leur faire faire un voyage à ces personnages-là dans Sim Survivor?
Oui, alors, c'est juste que ces îles, ce sont des décors, en fait. Et moi, je rejoins un peu ce que tu viens de dire. J'ai aussi pas mal voyagé et j'ai pu constater qu'effectivement, les fondamentaux humains, on les retrouve partout. Et dès lors, ce qui m'intéresse, c'est comment nous, en fait, le voyageur, va se transformer. Alors là, je pars en plus d'un personnage qui est quand même qui a beaucoup de possibilités d'évolution, parce qu'il est assez antipathique, je l'ai dit tout à l'heure, égoïste, frimeur, il adore le plaisir. Et on a parlé aussi de la Seconde Guerre mondiale, et moi, dans beaucoup d'histoires, j'aime précipiter les événements pour forcer les personnages à se retrouver dans des situations qui les dépassent totalement. Là, il va se retrouver dans ce jeu alors qu'il n'en veut pas du tout. Et en plus, il va avoir des doutes sur la réalité de ce jeu. Et s'il est réel, ça veut dire qu'il peut mourir, hein, évidemment. Donc, il est soumis à de très fortes pressions. Et comment quelqu'un va pouvoir évoluer, se transformer en subissant ce genre de choses? C'est vrai que je pense qu'on a été baigné par des récits en France, enfin par mes grands-parents, par exemple, qui nous racontaient la Seconde Guerre mondiale. Et nous, on est dans une situation très stable, en fait, hein, par rapport à eux. Et comment on réagirait s'il y avait des événements violents comme ça, des choses où le monde bascule d'un coup? C'est des thèmes que je reprends souvent dans mes romans, parce que c'est vrai qu'on se pose la question sur soi-même, hein. Qu'est-ce qu'on aurait fait, qu'est-ce qu'on ferait si ça arrivait? Ça arrivera peut-être, parce que c'est vrai que je pense que le réchauffement climatique à un moment va bousculer beaucoup les choses. Et donc le voyage, là, c'est celui de Sandro, mais le plus important, c'est son voyage intérieur, en fait. Hein. Comment il va s'ouvrir aux autres? Est-ce qu'il va s'abaisser, trahir, devenir lâche pour pouvoir sauver sa vie, ce qui s'est passé dans certaines périodes de l'histoire? Ou est-ce qu'il va finalement devenir meilleur et accepter aussi une forme de sacrifice, peut-être? J'en dis pas plus.
Non. Delia, alors encore une fois, pas de véritable voyage. On a une très belle entrée en matière où Sophie et sa mère vont vers cette maison dont elle se souvient un peu, la petite. Et le vrai voyage, en fait, c'est un voyage dans le temps, si on peut le dire sans trop en... Mais elle ne va pas bouger beaucoup, en fait. Enfin, elle va redécouvrir les choses autrement. Finalement, c'est pas tant un voyage de découverte de lieux qu'un voyage de découverte d'un nouveau contexte de manière assez brutale, puisqu'elle voulait juste vivre une aventure, cette petite demoiselle, et sacrée aventure finalement, et très douloureuse.
I am very interested always in the connections between the world that we have come, the history that we have, that has formed us, so that every moment that we live now has been prepared by a moment that came before. And since I myself was brought up in the 60s and remember a lot of the civil rights movement in New York and the violence and the anger of that period, which sadly is coming back again, I was very interested in seeing that exactly 100 years after the beginning of the Civil War, which was what freed the slaves, we were still fighting so many of the same battles. And so my heroine is, it's set in 1960, and she travels back to 1860. So she is on the eve of the most violent part of the civil rights movement and on the eve of the Civil War. And you can
Merci. Non. Donc oui, une chose m'intéresse énormément, c'est le lien entre l'histoire et nous, en fait, parce que les moments que nous vivons aujourd'hui, chaque instant que nous vivons aujourd'hui a été préparé par le passé. Personnellement, j'ai grandi dans les années 60, lors de la lutte pour les droits civils et civiques des Noirs américains. C'était un moment où il y avait énormément de violence, énormément de colère. Malheureusement, d'ailleurs, cette colère est en train de revenir. 100 ans auparavant, ça a été le début de la guerre de sécession. Un moment également très violent. Or, mon livre commence dans les années 1960 et mon personnage remonte dans le temps jusqu'à 1860. Donc, dans son présent, à elle, elle est à la veille d'un des moments les plus violents du XXe siècle aux États-Unis. Et dans le passé, elle remonte dans le temps à une autre guerre, à un moment très violent, la guerre de sécession, justement.
I lost my own train of thought.
You were talking about the civil war in America, 1960s, 1860s, the civil rights.
Oh, I know what I'm going to say. You spoke of putting your characters in a place where they are, where things happen to them, where they are forced to deal with something that is so much stronger than they are. And that is a moment that really interests me, and which I am currently writing a book about. But I'm interested in the small people, in the people who have no power, and how they react and how they deal with the things that more powerful people have decided for them. I find this something, I mean, which is more like our lives than a lot of the lives in a book, and yet you can make it more, you can make it more understandable, you can make it exotic, you can make it interesting in a way that we don't always find our own lives interesting. And I think that writing fantasy is one of the ways that we can all make that voyage of imagination into a life that is like ours but not ours.
Alors, vous disiez que vous aimiez mettre vos personnages à un endroit, dans un emplacement ou un lieu où ils doivent gérer quelque chose qui est plus fort qu'eux. Ce qui m'intéresse personnellement quand j'écris, c'est de mettre mes personnages, pas des grands héros, des petits personnages, plutôt impuissants, dans une situation où ils doivent réagir, ils doivent faire face aux décisions que d'autres plus puissants ont pris pour eux. Et ça ressemble plus en fait à nos vies que d'autres. Ça permet d'augmenter notre compréhension du monde et ça permet d'expliquer un peu des choses qu'on ne peut pas faire. Et c'est ça le fantasy. On peut voyager dans des vies qui sont différentes des autres mais qui en réalité ne le sont pas.
Justement, alors ça m'intéresse bien, c'est pratique de rebondir parce que Clément, toi c'est encore un autre genre. Qu'est-ce que là le voyage, ce serait un voyage vers le passé à travers l'enquête, comment est-ce qu'on pourrait parce que tu parlais tout à l'heure de la façon dont on va revenir sur cet événement précis qui est arrivé aux enfants et puis en fait à bien d'autres choses et le personnage d'Estelle va creuser ça. C'est un voyage aussi de revenir dans le passé d'une communauté comme ça.
Pour le coup, j'assume même un côté double voyage. Alors, c'est pas un voyage kilométrique, effectivement, c'est plus un voyage dans le temps, d'une part, parce que Estelle, donc c'est une des mères de famille, c'est l'héroïne du roman, elle a elle-même perdu un des enfants, enfin son enfant dans l'accident, son seul enfant. Du coup, il y a effectivement une mécanique où elle doit, pour comprendre ce qui s'est passé, elle a besoin de remonter à l'accident. Suite à un événement qui se passe dans le livre, donc j'en dis pas davantage sur cet événement-là, mais donc bref, elle se retrouve embarquée dans l'enquête et donc elle a besoin effectivement de remonter, de comprendre ce qui s'est passé 6 ans plus tôt, mais aussi bien plus tôt que ça, parce qu'elle va se rendre compte que il y a des choses sales et pas saines qui se passent dans ce village depuis un petit moment, depuis très longtemps. Voilà, donc elle part sur les traces de ça. Et l'autre voyage, pour moi, c'est son voyage intérieur, c'est-à-dire c'est une femme détruite. Estelle, elle a perdu son seul enfant. Du coup, son couple a complètement battu de l'aile, elle n'était plus capable de l'assumer. Donc elle est complètement brisée en tant que femme aussi, en tant que personne, quoi. Et donc du coup, son voyage, c'est pour retrouver du mouvement, retrouver de l'allant, retrouver une vie, quoi. Elle est au départ complètement bloquée. Elle ne peut plus se regarder dans un miroir, elle ne se supporte plus, voilà. Et donc du coup, son enquête, c'est aussi pour elle-même, quoi, pour avancer, pour essayer de réexister.
Merci. C'est une des caractéristiques, par contre, que vous avez, c'est ce jeu, chacun avec soit des personnages multiples, soit des retours en arrière. Et ça, comment est-ce que ça enrichit votre propos de pouvoir avoir ces retours en arrière, ou alors ces multiples voix, je pense à toi Loïc par exemple, où on suit principalement Sandro et en même temps on a quand même de temps en temps des vues des autres, d'autres, comme si on était dans différentes caméras, comme dans l'émission elle-même. Comment ça sert ton roman, ça, de...
Eh bien, je crois que tu as répondu à la question.
Ouais.
Puisque tu
Pardon.
As dit, comme si on avait plusieurs caméras. Et effectivement, c'était un peu l'objectif puisque c'est un jeu télévisé. J'ai hésité à rester uniquement dans le point de vue de Sandro. Après, on sait qu'il y a aussi beaucoup de filles qui vont lire le livre. Et c'était un peu dévalorisant pour... puisque c'est un couple, un duo, on va dire. Ils vont probablement finir en couple. Mais de se focaliser uniquement sur le point de vue du garçon, c'était un petit peu gros. D'autant qu'ils sont un petit peu antagonistes et qu'ils vont chacun évoluer pour se rapprocher l'un de l'autre et donc ouvrir leurs horizons. J'ai voulu donner plusieurs points de vue parce que ça donne aussi un rythme intensif. Comme dans, si vous regardez une émission de télé-réalité aujourd'hui, le rythme est toujours très intensif, les changements de caméra volontairement de point de vue sont brutaux, on passe d'un visage à l'autre et puis d'un commentaire sur ce qu'on vient de voir, comme si on n'avait pas compris. d'un concurrent, etc. Donc c'était un peu pour jouer sur cette manière de raconter l'histoire. C'est un petit peu un pastiche, évidemment, de toutes ces émissions et une critique, puisque ça se termine très mal pour certains.
Presque tous.
Presque tous, c'est la vérité. mais c'est, je pense que c'est le cas dans le monde d'aujourd'hui. Hein. Si on fait un bilan de certaines émissions de télé-réalité dans une dizaine d'années, ou même peut-être des premières qui sont apparues en France et peut-être aux États-Unis bien avant, je pense qu'on verra les ravages que ça a pu causer sur, en tout cas, pas sur leur vie peut-être, quoique, mais en tout cas sur leur psychologie. Donc voilà, l'objectif c'était de changer les points de vue, puis c'est quand même un livre jeunesse, donc on sait que le rythme doit être assez rapide, assez intensif, et je voulais que la personne qui lise le livre se retrouve aussi un peu piégée en tant que spectateur. J'ai subi entre guillemets, mais cette étrange impression en lisant Marche ou crève, dont j'ai parlé, de Stephen King, où il veut dénoncer justement ce jeu affreux où tous les jours le dernier est éliminé, physiquement il est tué en fait, hein, jusqu'à ce qu'il y ait un gagnant. Ils sont 100 au départ, et puis on se rend compte qu'en tant que lecteur on est piégé par cette logique, c'est-à-dire qu'on va vouloir savoir qui va mourir le lendemain. Et donc c'est là où Stephen King a réussi un coup de maître, c'est qu'il nous met face à notre envie de voir les choses, notre côté voyeur en fait. Et ce changement de point de vue permanent, ça entraîne aussi le lecteur à se poser des questions sur son propre rôle devant ce type d'émission.
Ouais. Et dans ton livre, Clément, ce qui moi m'a frappé au début, c'est il y a des extraits de journaux. Alors il me semble que tu es journaliste toi-même. Ouais, et ça c'est intéressant de rentrer dans le livre avec des éléments, un prologue assez troublant, et puis ces extraits de journaux. Alors comment tu t'en sers, quel était ton objectif en fait en nous faisant démarrer comme ça?
L'objectif c'était de montrer que la presse a un pouvoir assez direct, mais en même temps très passager, c'est-à-dire que ces articles ils existent à un moment T. Ils seront lus par les lecteurs du journaux, ou ça sera vu à la télé, etc. Mais ensuite, on passe très vite à autre chose. Dès le lendemain, c'est quasiment, hein, pour la personne qui ne l'a pas vécu en direct, qui n'a pas de proches concernés, c'est oublié, quoi. Je pense qu'on est globalement tous concernés par ce genre de choses. Hein. On peut être frappé par un événement qui se passe. Si on n'est pas directement concerné, on passe très vite à autre chose. Et mon objectif, c'était de montrer ça, montrer que la presse est là, elle parle du drame, peut-être avec le sens qu'il faut, peut-être avec les mots qu'il faut, mais ça passe. Et par contre, la douleur des personnes qui ont vécu le choc, le traumatisme, elle reste longtemps et ça fige.
D'accord. Isabelle, toi, moi, ce qui m'a frappé dans Anastérie, c'est la façon dont on revient en arrière avec des interludes qui retracent le passé des personnages de manière chronologique, mais on revient dans le passé et au fur et à mesure, évidemment, ça éclaire les chapitres qui se passent dans le temps d'aujourd'hui du roman. Et comment est-ce que comment t'as orchestré ça? Est-ce que ça a été un besoin à un moment de te dire bon, il me faut des éléments, ou est-ce que tu l'as construit tout de suite en te disant je vais balader le lecteur d'un temps à un autre?
Non, au début il n'y avait pas. Il y avait une raison technique et une raison, on va dire, plus artistique. Je voulais casser une espèce de monotonie narrative. Sur Grishmer, j'ai fait la même chose et je pense pas que j'en aurais eu besoin pour cette raison, parce que justement j'avais une narration plus dynamique, j'avais pas ce classicisme qu'il a fallu retravailler, que j'ai retravaillé, mais où il y a quand même quelques éléments qui subsistent dans Anastérie. Je l'ai gardé et je vais le garder pour tous les livres, alors que d'habitude j'aime pas trop les artifices narratifs comme ça, mais là je trouve ça assez intéressant parce que ça contextualise mes héros. Les personnages principaux de chacun de ces livres vont pas forcément être des gens super sympathiques. Et c'est pas non plus des anti-héros, des gens qu'on aime bien détester, des personnages un peu poil à gratter comme ça, ou des grands méchants. C'est vraiment des gens qui sont pas spécialement sympathiques, je pense beaucoup, parce qu'ils ont les mêmes défauts que nous. Et je voulais à la fois forcer à assumer des choses, des défauts très ordinaires mais qui peuvent être très destructeurs et auxquels on peut être soumis les uns et qu'on peut avoir les uns et les autres, et en même temps montrer le contexte qui fait que cette personne, bah, ces deux héros qui ne sont pas des enfoirés à la base, c'est des gens qui sont des produits de leur environnement, donc montrer à la fois comment ils sont devenus des produits dans l'environnement et comment ça ne les dégage pas de la responsabilité de faire des choix. À partir du moment où ils ont eu la possibilité de prendre du recul sur eux et s'ils ont le courage de le prendre, ce qui sera ou pas le cas de chacun de ces héros, à partir du moment, voilà, à la fois montrer que oui, on peut juger les personnes, mais tout en comprenant ce qui les a amenés à là où ils sont, mais comprendre, c'est pas trouver des excuses. À un moment, et tout le monde a les possibilités de faire des choix. Voilà. Donc, je voulais à la fois avoir une certaine empathie, pour ces personnages et montrer que ils avaient quand même leurs responsabilités.
D'accord. Delia, il y a deux choses. Il y a cette façon de s'être inspirée d'un document réel qui m'a frappée, hein, cette fille née esclave. Et la part fantastique du roman qui me semble aussi apporter quelque chose de différent. On n'a pas seulement cette jeune fille qui part dans le passé, mais elle est observée et regardée par ces créatures, celles qui l'ont emmenée. Et puis, pourquoi et qu'est-ce que ça apporte dans le roman de rajouter cet élément-là fantastique et ce rapport à des êtres surnaturels?
The South, like many places that are hot and full of mosquitoes and things that can kill you, has a great deal of folklore attached to it. And some of the folklore comes from the Native Americans who lived there from the very beginning. Some of it was imported by the white people who came and colonized it, and some of it came with the slaves from their own personal from their countries. They too imported it, but they needed it more. And also it wasn't folklore as much as it was a real religion. So they had to find a way to practice that religion in an environment that was extremely hostile. And so they would give their gods the names of Catholic saints in Louisiana, which was a Catholic country, a Catholic state. That was very easy.
Donc la Louisiane, le sud des États-Unis, c'est une région où il fait très chaud, où il y a beaucoup de moustiques et où il y a beaucoup d'animaux qui peuvent vous tuer. Ce qui fait que tout naturellement, il y a énormément de folklore. Alors une partie de ce folklore vient des populations indiennes, les populations autochtones américaines, mais beaucoup. Il y en a aussi qui a été importé par les colons blancs, par exemple, qui sont venus aux États-Unis, et aussi par les esclaves. Les esclaves qui ont également été importés, qui ont importé leur religion et en avaient besoin. C'était une véritable religion pour eux. Mais pour pouvoir pratiquer leur religion, ils devaient faire preuve de beaucoup d'adresse, d'ingéniosité, parce qu'ils étaient dans un environnement hostile où ils ne pouvaient pas pratiquer leur foi comme ils le souhaitaient. Donc beaucoup de leurs dieux ont été convertis en dieux, en saints catholiques, car la Louisiane, à l'époque, était un État catholique en grande majorité.
So some of the supernatural creatures that I used were the gods of the Yoruba, the Baron of the Crossroads, who looks forward and back and is the god of the doorways, is the one who takes her through. She is cured, she is healed at one point by the goddess of the sea who heals her, and who had other names in Louisiana, but that's who they were. And I actually have an old student who is a priest of the Orisha, and he worked with me trying to find how I could write these scenes respectfully.
Donc, oui, donc ils ont. Quand j'ai commencé à travailler sur mes créatures surnaturelles, je me suis inspirée des dieux Yoruba. Prenez par exemple le baron, celui qui a des yeux devant et derrière la tête. C'est le baron des passages, des portières qui existent. À un moment, mon personnage principal est guéri par la déesse des océans qui a bien des noms en Louisiane d'ailleurs. Un de mes anciens étudiants est un prêtre Orisha, et j'ai beaucoup travaillé avec lui pour voir comment je pourrais écrire ces scènes, écrire ces dieux sans froisser quiconque.
But my creature is my he's just my imagination, and in my head he is all of it put together. He is all of the folklore. He is the trickster. He is the thing that makes things happen, and who knows no laws. And we all need a little of that in our lives. So I put in him in, and besides which he's fun to write.
Mais ma créature, bon, c'est le produit de mon imagination. En fait, j'ai essayé de mettre tous ces dieux, tout ce folklore, en un seul et unique personnage. C'est le dieu qui trompe. C'est le dieu qui fait que les choses arrivent. C'est le dieu qui ne respecte pas les droits. Bon, on a besoin de lui en réalité. Et puis, il est très sympa à écrire aussi.
Merci. Alors, le temps passe très vite et du coup, je vous avais promis que si vous vouliez poser des questions, vous pourriez. Moi, j'avais encore envie de vous parler de l'engagement, parce que s'il y a quelque chose qui vous lie, si c'est pas le voyage, si c'est pas tant les procédés qui sont variés, c'est quand même qu'il me semble chacun de vos romans est engagé à sa manière dans quelque chose. Mais ça, on fera une autre fois peut-être. Et du coup, est-ce que vous avez envie, vous, de dire quelque chose, de leur demander quelque chose? Ouais, super. Vous avez 5 minutes pour parler de l'engagement. Alors du coup, rapidement, parce qu'on va devoir laisser ensuite les fauteuils. Il me semble que dans chacun de ces romans, il y a quelque chose d'une revendication peut-être, ou de quelque chose que vous vouliez dire, apporter ou pointer du doigt à travers. Bon, dans Grishmer et Anastasia, on a deux systèmes, et puis on va en avoir d'autres, on les attend. Mais en quoi c'est une écriture engagée,
Isabelle? Dans Grishmer, ça parle de féminisme, donc c'est peut-être plus visible que dans Anastasia. Ceci étant, c'est marrant parce que dans Grishmer, les gens sont beaucoup focalisés sur le féminisme parce que c'est ce qu'il y a de plus visible, vu que c'est une société c'est la seule société matriarcale dans un monde très patriarcal, donc c'était obligé que ça saute aux yeux. Mais c'est pas du tout le thème principal du livre. Le thème principal du livre est plus sur les limites de la connaissance. Notamment, je parle de celui-là, enfin, il y a plein de trucs sur Anastasia, mais comme j'ai déjà un peu parlé de l'utopie, limites de l'utopie. En fait, mon personnage principal, c'est un grand érudit. C'est un serviteur de luxe, il a appris plein de choses, il connaît la généalogie de tout le monde, il connaît les blasons, il connaît l'histoire, il connaît la littérature, c'est aussi un maître du combat. Il a été construit pour être ça. Et
guerrier d'intérieur.
Guerrier d'intérieur, oui. Et il est très fier de ça, et avec raison. Et donc il est très fier de ça, mais placé dans un autre contexte qui n'est pas son environnement social habituel et qui est dépaysant sur plein d'aspects, mais qui ne l'est pas à ce point-là, il est totalement perdu. Et en fait, le thème principal de Grishmer, c'était ça. C'est un truc qui, enfin, je trouve, en France, même si c'est de moins en moins vrai, on valorise énormément l'érudition. On a une certaine... Alors, être intellectuel, je trouve ça super. L'intellectualisme me pose un peu plus de problèmes. On a cette espèce de glorification de l'érudition. Mais moi, j'ai toujours été assez... j'adore apprendre. J'ai fait un doctorat, hein, donc je suis allée... mais j'ai toujours une méfiance de l'accumulation de connaissances, donc pour le plaisir de l'accumulation. En fait, je trouve ça assez suspect, parce que je me dis, de tout ce temps passé à apprendre des trucs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, à quel moment on en fait quelque chose? Et moi, il y a une phrase qui m'énerve énormément, qui prend différentes formes, c'est cette espèce de donner un livre aux enfants et préparer le monde de demain, pour éviter les dictatures, les machins, les gnagnas. Franchement, il y a plein de collabos cultivés, il y a plein de dictateurs érudits. C'est pas la culture qui va faire de vous un humanisme. Ça va être le recul sur cette érudition. L'analyse pas forcément intellectuelle, hein, je survalorise pas ça, mais ça va être vraiment le fait d'être capable d'esprit critique. Et évidemment qu'apprendre des nouvelles choses, s'intéresser à des nouvelles cultures, lire des nouveaux livres, évidemment que ça va nous donner des billes pour exercer cet esprit critique. Mais on peut très bien ne rien en faire. Et l'érudition en elle-même n'est pas du tout une solution. Et cette espèce de tendance à mettre l'érudition sur un piédestal me pose un réel problème. Et c'était le principe même de Grishmer. Et dans ce livre, à partir du moment où il va voir toutes ces certitudes remises en question et où il va accepter de prendre du recul, là, son érudition va devenir un vrai pouvoir. Mais tant que ce n'était pas le cas, bah, c'était juste une jolie médaille. Voilà.
Un serviteur idéal.
Un serviteur idéal et un guerrier d'intérieur.
Je ne sais pas, qui veut parler de... Delia ?
Ouais.
Merci. Honneur aux dames. Ouais. Oui, qu'est-ce que Delia, alors il y a l'esclavage, la question de l'esclavage évidemment peut-être comme engagement. Est-ce que c'était ça que tu voulais montrer ou sur quoi, en quoi tu peux dire que ton roman est un roman engagé?
The thing that made me write this novel was that I was engaging with a part of my own history, and in a way, in the way that makes the most sense to me, which is by exploring it from the inside, by doing things that are uncomfortable for me, by creating characters who are you know, like parts of me but not all of me, and who have a different history from mine.
Alors bon. J'ai écrit ce roman parce que je voulais écrire quelque chose qui touchait à mon histoire, quelque chose qui avait énormément de sens pour moi. Je voulais en fait explorer quelque chose qui est très proche de moi, qui me met très mal à l'aise et qui fait quand même et qui crée des personnages qui font partie intégrante de qui je suis.
I found myself exploring not only slavery but also daughter-mother relationships, what friendship does, how somebody who is very shy and passive can become active for various reasons, not because situations force her to, but because something because she develops something in herself that when she is presented with a difficult situation, instead of hiding, she does something about it.
Donc oui, je souhaitais en effet explorer l'esclavage, mais je voulais également parler de la relation mère-fille, de la question de l'amitié, de comment une personne qui est timide, qui peut être un peu passive même, devient soudain active. Et ce n'est pas la situation qui les fait bouger, non, c'est quelque chose qui se développe en eux, quelque chose qui change et qui les fait passer à l'action.
Also, because it is a book for younger readers, the project of almost any book for younger readers is to give a model of growing up and to show a coming of age. And in many books like this, the coming of age has something to do with the edges of romance, with certain kinds of relationships, and I wanted to do something a little bit different, because feminism.
Et bon, c'est un livre pour les plus jeunes lecteurs. Et souvent, quand on écrit un livre pour les jeunes, on veut en fait leur donner un modèle de quelqu'un qui grandit, quelqu'un qui commence à rentrer dans l'âge adulte. Alors souvent, c'est quelque chose qui est lié au début de l'amour, à créer une relation plus adulte, etc. Mais moi, je voulais faire quelque chose de différent à cause du féminisme, tout simplement.
Du coup, on va s'arrêter là-dessus, c'est pas mal. Désolée les garçons. Féminisme. On n'a peut-être pas réussi à déterminer en quoi ils étaient des voyageurs de l'imaginaire. En tout cas, ça vous aura sans doute, j'espère, donné envie de voyager dans leurs livres parce que vraiment, tout différent et disparate qu'était ce corpus, il est passionnant. Voilà. Merci beaucoup.
Merci.